On travaille sur tout ce qui est la protection de l'enfant, mais aussi sur la prévention. Tenir les enfants en sécurité, en effet. On travaille sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est notre e-learning programme. C'est l'enseignement en ligne. Ce sont des unités de formation. À l'instant, on en a presque 18. Et c'est une formation pour les universités, les séminaires, mais aussi pour les agents pastoraux. Parce que dans ces unités de formation, il y a deux niveaux, le niveau très accessible et le niveau académique. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit dans ces cours? C'est sur culture et l'enfant, c'est le premier. Mais on voit aussi, c'est quoi un abusateur, si on peut employer ce mot en français, hein? Quelqu'un qui abuse les enfants. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Est-ce qu'il a certains traits? Et aussi sur les victimes, mais quelles sont les conséquences pour une victime? Et donc, dans ce programme, avec des vidéos, avec des PowerPoint, avec des textes, avec des tâches, tout un programme très bien équilibré, les gens peuvent à la maison ou à l'université faire ces exercices. Cependant, ce cours n'est pas destiné à des individuels. C'est lié à une institution, par exemple un diocèse, ça peut aller. Mais c'est donc pour former les gens pour qu'ils puissent reconnaître les signes d'abus, pour aider à soigner les gens et pour faire la prévention.
Ce sont les différents épiscopats, les différentes églises qui viennent vous voir ou c'est vous qui allez vers eux? Comment ça se passe?
Ben, il ne faut pas aller quelque part parce que le nombre des églises et des universités qui nous demandent de pouvoir participer dans le programme, c'est beaucoup. Heureusement, on en est très content. Mais c'est donc Ghana, Équateur, Chili, Argentine, l'Allemagne, le Canada. Tous les continents, évidemment, effectivement, demandent de participer. Mais l'autre chose qu'on fait, c'est le diplôme. On a commencé le 15 février, donc c'est tout nouveau. C'était notre premier groupe. On a 19 étudiants de 15 pays et de 4 continents. Et on donne les cours, là c'est face à face, sur l'abus sexuel et la prévention.
Une des questions qui se pose à travers les différents scandales, on en a parlé au moment du film Spotlight, on en parle aussi beaucoup en France en ce moment, c'est la hiérarchie de l'Église qui a pu être aveugle, ne pas voir certains cas et ne pas les dénoncer à la justice. On sait que c'est difficile. Est-ce que c'est un thème sur lequel vous travaillez justement dans votre réflexion?
On ne travaille pas en effet sur les cas spécifiques. Mais ce qui est à la base, cette affaire, c'est-à-dire le secret, ne pas vouloir dénoncer un collègue à cause du fait qu'on ne veut pas nuire à l'Église, ça on traite. Parce que si on pense que tenir le silence, que c'est aider l'Église, c'est une faute. Parce qu'on nuit deux fois à l'Église, une fois par l'abus et une fois par ne pas vouloir être transparent. Donc la transparence dans l'Église, c'est très important. Et que si au début, on a fait quelques fautes et on n'a pas réalisé que éviter le scandale donnerait lieu à encore un plus grand scandale, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On le sait qu'il faut être transparent et qu'il faut prendre la responsabilité.
Vous sentez qu'il y a quand même une résistance encore dans la culture, peut-être plus dans certains pays en particulier?
Absolument. Hein. On a encore beaucoup de travail à faire. On ne pourra pas fermer le centre demain. Donc, dans beaucoup de pays, il y a une résistance. Et moi, je pense aussi que c'est la honte. Et la honte, ça fait que les gens n'osent pas parler, ne veulent pas parler. Mais ce n'est pas que je trouve que c'est une raison de ne pas parler, hein? Parce qu'il faut parler, il faut prendre la responsabilité, même si ça fait mal. C'est pour le bien de l'Église, c'est pour ça qu'on est là, et pas pour protéger n'importe quelle personne.
Il y a la peur du scandale, mais il y a aussi le fait que l'Église soit hiérarchique. Est-ce que ça, c'est l'une des causes du blocage aussi, le fait qu'un évêque, par exemple, puisse avoir du mal à dénoncer ses prédécesseurs, évêques, archevêques? archevêques, cardinaux même. Ça, vous pensez que c'est aussi une des résistances sur lesquelles il y a encore du travail à faire?
Oui, mais c'est toujours difficile de dénoncer quelqu'un qui est mort, par exemple. Parce que ça, on a eu avec les prêtres aussi. C'est pour ça, par exemple, en Belgique, quand les victimes reçoivent de l'argent, ils doivent signer qu'ils ne vont pas dénoncer le nom du prêtre. Parce qu'on ne peut pas le prouver. Parce que cet homme est mort. Donc, même si on croit la victime, on demande de ne pas faire ça. Donc, pour ceux qui sont décédés, c'est quand même très délicat de dire qu'ils sont coupables. Et pour les autres, il faut pouvoir prouver aussi s'ils sont là, et c'est pas toujours facile. La meilleure chose est que si les gens prennent eux-mêmes la responsabilité.
Cette responsabilité, on la prend pas forcément par soi-même. En fait, il faut aider aussi peut-être ces responsables religieux, ces évêques, ces prêtres.
Oui, et de plus haut qu'on est, de plus difficile que c'est pour admettre ses fautes. On voit ça dans l'Église, on voit ça ailleurs aussi. C'est très difficile parce que aussi les gens visent encore plus les évêques comme exemple. Alors, eux aussi, ils sentent une responsabilité envers l'Église. Mais la vraie responsabilité, c'est d'être transparent. Et donc, c'est une fausse responsabilité de penser « Non, je dois garder mon image parfaite, parce qu'autrement, les gens de l'Église, les croyants vont souffrir. » Non, il doit prendre la responsabilité, et les gens vont plus apprécier que d'avoir une attitude hypocrite, par exemple.
On sait que les victimes, au fil des années, déposent des plaintes, finissent par parler, mais souvent après des années de silence, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Est-ce que ça, vous travaillez justement sur le fait de libérer une parole? Comment ça se passe? Comment vous travaillez là-dessus en particulier?
Pour commencer, c'est prouver. De plus vite que la victime parle, de plus facile le processus de guérison. Donc ça, c'est déjà, on pourrait dire, assez pour vouloir que les affaires, les abus soient dénoncés et qu'il y a une révélation de l'abus. Oui, on travaille cela beaucoup parce que, par exemple, ma propre expertise ou expérience plutôt, c'est que les victimes parlent très tard. J'espère que ça va changer, mais je ne suis pas encore trop...
Comment vous l'expliquez, ça?
Pour commencer, donc, quelqu'un qui veut dénoncer ça, essaye avec quelqu'un. Il dit ou elle dit une petite chose pour voir si je peux avoir confiance en vous. Si vous me dites tout de suite, mais qu'est-ce que vous racontez là? L'enfant ne va plus jamais rien dire. Et donc, il y a beaucoup d'enfants ou des adultes qui racontent qu'en tant qu'enfants, ils ont essayé de parler. Cependant, personne n'a voulu les écouter. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, en France, maintenant, il y a des groupes d'écoute. Parce que ça, c'est la première chose. Il faut écouter et vouloir entendre, parce que ça sont encore des choses différentes. Donc, quand ils ont senti qu'il n'y a pas d'ouverture, les enfants ne vont plus parler. Il y en a alors qui ont dit le tout. Et que, à cause de la position des prêtres dans ce temps-là, qui était quand même un peu intouchable, les gens n'ont pas cru. Ils ont pensé que l'enfant disait des mensonges, que ce n'était pas possible qu'une telle personne faisait une telle chose. Donc, je pense que ça a à faire avec deux choses. C'est la position de l'enfant, qui a amélioré beaucoup les dernières années. Un enfant est beaucoup plus pris au sérieux. Et deuxièmement, la position d'un prêtre aussi, qu'on ne voit plus comme un homme qui ne peut pas faire des fautes lui-même non plus.